En sommes-nous arrivés au point où il faut aujourd'hui sauver la nuit? Eh oui, il faut la sauver. Il faut la sauver de toutes les pollutions lumineuses qui nous masquent les étoiles, qui gaspillent inutilement de l'énergie, qui menacent de nombreuses espèces animales. Mais qui en veut vraiment à la nuit? Est-ce que ce sont les allergiques aux noctambules ou plus largement la logique libérale pour laquelle tout interstice temporel doit absolument être rentable? Sur ce plateau, pour savoir s'il faut sauver la nuit et comment la sauver, deux invités, un géographe et un philosophe. Le géographe, c'est vous, Samuel Chaléat. Vous êtes coordinateur du collectif Renoir. Alors, le collectif Renoir, c'est Ressources environnementales, nocturnes et territoires. Et vous êtes auteur, justement, d'un ouvrage « Sauver la nuit » aux éditions Premier Parallèle, au dos duquel, d'ailleurs, je lis un résumé très rapide de l'ouvrage. « Aujourd'hui, allumer un réverbère, c'est éteindre les étoiles ». On va développer dans l'émission. Avec nous également un philosophe, Michael Fossel. Vous êtes prof de philo à l'École Polytechnique, notamment parmi de nombreuses autres activités. Vous avez publié il y a quelques années « La nuit, vivre sans témoin » aux éditions Autrement. Alors vous abordez la nuit sous un autre angle que votre camarade géographe. Vous l'abordez comme, si j'ai bien compris votre réflexion, un territoire de toutes les transgressions, hors de tout contrôle, en tout cas potentiellement hors de tout contrôle et justement hors de tout témoignage possible, vivre sans témoin. Voilà, donc deux approches complémentaires, peut-être par certains aspects contradictoires, c'est ce qu'on va essayer de voir sur le plateau. Alors peut-être que vous découvrez, comme moi je l'ai découverte il y a quelques semaines, cette problématique de la nuit, à laquelle je dois avouer que je n'étais pas particulièrement sensible, et des pollutions lumineuses. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va partir d'un exemple très précis. En novembre dernier, TF1 et France 2, presque le même jour, se sont intéressés à une exploitation agricole bretonne.
La campagne bretonne, au cœur de la nuit. Le ciel s'embrase. Il est 5h du matin. Horizon surréaliste, comme un grand incendie. Perdus, les coqs chantent avec quelques heures d'avance. Alors, d'où vient cette lumière?
Visible à plusieurs dizaines de kilomètres, ces serres gigantesques, l'une des plus grandes installations de France chauffée et éclairée la nuit. 17 hectares de tomates, au cœur de la polémique.
Le jaune vient des lampes à sodium, le violet des lampes LED. Un éclairage artificiel pour remplacer le soleil.
Ce spécialiste a étudié le phénomène grâce à des relevés satellites de la NASA.
Le satellite.
On peut voir par exemple sur cette image brute la ville de Rennes, hein, qu'on voit ici en niveau de gris, et le spot lumineux de la serre qui est très intense. L'intensité lumineuse mesurée à cet endroit-là est 56 fois plus importante que l'équivalent mesuré au centre-ville de Rennes.
Mort des insectes, perturbation de la floraison des arbres. Pour lui, pas de doute, les conséquences sur la biodiversité sont importantes.
Certains oiseaux migrateurs se repèrent avec les étoiles et la voie lactée pour trouver leur chemin. Si on se retrouve dans un halo lumineux où on ne voit même plus d'étoiles, eh bien forcément ces animaux vont être perturbés.
Pour la municipalité, il faut surtout négocier des aménagements sans pour autant oublier l'activité économique.
C'est une entreprise qui crée des emplois. Et s'ils ne sont pas ici, ils vont être ailleurs. C'est déplacer le problème.
Alors, on voyait ces sujets. On pouvait se dire tout d'abord qu'il s'agissait d'un problème ponctuel, d'un agriculteur qui avait un peu pété les plombs avec toutes ces illuminations nocturnes. Et puis, on lit vos livres à tous les deux et on découvre que non. Ce qui se passe là, autour de cette exploitation agricole, est typique d'une agression multiforme dont souffre la nuit.
Oui, effectivement, je pense qu'au-delà de cette problématique très particulière des serres, je pense qu'il faut souligner la problématique de l'érosion de l'obscurité d'une façon plus générale, sous l'effet de l'éclairage artificiel de nos villes. Un éclairage artificiel qu'on a tout d'abord installé. Je tiens à préciser qu'il faut bien se garder de juger a posteriori avec les lunettes d'aujourd'hui et la connaissance scientifique qu'on a aujourd'hui de décisions d'aménagement prises dans les années 1950, 1960, 70, 80, à une période où les besoins d'éclairage artificiel se faisaient sentir de façon pressante, notamment avec l'arrivée massive de l'automobile dans la ville, et puis cette automobile qui a permis de s'installer toujours plus loin des centres-villes, d'aller résider toujours plus loin des centres-villes, et une dépendance automobile qui s'est créée, qui s'est installée dans nos sociétés, une ville qui s'est étalée, et du coup des halos lumineux que tout le monde a déjà certainement pu observer, hein. Quand on arrive de nuit aux abords d'une ville, on commence avant même de voir la ville en elle-même, les points lumineux en eux-mêmes, on commence par voir ce halo qui surplombe la ville. Et ces halos lumineux, dans les années d'après-guerre, se sont étendus et fortement intensifiés également sous l'effet des améliorations techniques de l'éclairage. Amélioration, bien sûr, du point de vue des fabricants d'éclairage, beaucoup moins du point de vue des astronomes amateurs et professionnels qui, eux, ont porté sur la place publique un nouveau problème, la perte de visibilité du ciel nocturne. Ils se sont mis à revendiquer un nouveau bien environnemental. Ils ont constitué un bien environnemental autour du ciel étoilé et de sa disparition.
C'est-à-dire que les premiers lanceurs d'alerte ont été les astronomes ?
Les premiers lanceurs d'alerte sont effectivement les astronomes professionnels dans les années 1950-1960. Très rapidement, ces astronomes professionnels vont avoir d'autres problématiques en tête, à savoir rechercher des cieux les plus exploitables possibles, des nombres de nuits exploitables par an maximales, et donc vont partir dans l'hémisphère sud, dans des conditions météorologiques et climatiques plus favorables que les cieux sous nos latitudes. Et ils vont repasser un petit peu le flambeau de la lutte contre ce qui devient aujourd'hui une pollution lumineuse aux astronomes amateurs.
D'accord. Et alors, pour avoir une idée visuelle de ce dont on parle, l'émission Envoyé spécial, il y a quelques temps, avait comparé deux photos aériennes, de photos satellites de l'Europe. Hein. Donc voilà, ça c'est l'Europe, un paysage d'Europe nocturne en 1992 et en 2010. Et on peut en effet apprécier à quel point le... Alors, si vous appelez la pollution... et alors là, ça m'amène à ma première question. Qui dit pollution dit habituellement dommage irréversible ou en tout cas durable causé à l'environnement, à un milieu naturel, à une rivière ou à n'importe quel milieu. Et en fait, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que s'agissant de la pollution lumineuse, ben, on éteint les lumières et tout effet s'abolit.
Ouais, alors là, il y a une petite distinction à faire. Effectivement, votre remarque est tout à fait pertinente et elle amène une distinction un peu fine. Du point de vue de la disparition du ciel étoilé, la lumière constitue une nuisance, dans le sens où la lumière ne dégrade pas physiquement les étoiles en elles-mêmes. En fait, elle empêche l'accès aux étoiles, l'accès visuel. C'est un petit peu comme si on construisait un mur entre vous et l'océan au niveau de la plage. Le mur ne dégrade pas en soi l'océan, mais vous empêche d'y accéder. Par contre, ce que nous disent depuis les années 1970, 1980 et puis surtout les années 2000, les écologues et les médecins chronobiologistes et les médecins spécialistes du sommeil, c'est que la pollution lumineuse, la lumière artificielle nocturne, dégrade un actif écologique et sanitaire qui est l'obscurité. Et là, une fois qu'un milieu a été vidangé d'un point de vue, par exemple, de sa population d'insectes par la lumière artificielle, hein, on a un effet d'aspirateur, en fait, les insectes vont être attirés inéluctablement autour de l'éclairage artificiel ou alors chassés de ce milieu par un effet de photophobie, hein, de peur, de répulsion par rapport à cette lumière artificielle, ce milieu, il va bien falloir un certain temps pour que, même quand on éteint la lumière artificielle, il soit recolonisé par ces espèces et on n'est pas sûr de retrouver l'état antérieur.
Et en quoi ça rejoint la pollution au sens où on l'entend traditionnellement. Alors, Michael Fossel, vous avez une approche tout à fait différente du phénomène, hein, une approche philosophique, et je ne peux pas mieux la résumer qu'en lisant en donnant lecture de l'incipit de votre livre. Souvent, je me demande ce que je fais encore là, seul ou entouré dans le noir, ou baigné par des lumières artificielles dans une rue obscure ou aux abords d'une piste de danse, la même question, qui suis-je, moi qui veille? Dès l'instant où cette question se pose, je sais que la nuit est terminée. Pourquoi la nuit est terminée dès l'instant où vous posez une question?
Ben, si on entend par la nuit l'espace qui est non seulement traversé par l'obscurité des choses, mais aussi par une certaine obscurité à soi, c'est-à-dire on va dans la nuit, on va à la nuit, ou la nuit vient à nous d'ailleurs, comme un espace où justement on ne vit plus sous le regard des autres, comme un regard, je dirais, qui équivaut souvent à un jugement, ni sur son propre regard en fonction de la manière dont on est habillé, dont on se comporte, dont il faut au fond s'imposer à soi-même toute une série de contraintes. Eh bien effectivement, à partir du moment où la nuit est un espace d'accueil pour des libertés alternatives, le moment de la réflexivité, le moment justement où on commence à nouveau à se regarder agir, à se regarder être, c'est un moment qui annonce un peu le chant du coq, hein, c'est-à-dire ce moment où le jour se lève et où il faut d'urgence rejoindre une vie plus normale. Mais ça n'est pas totalement, je crois, sans rapport avec ce qu'expliquait Samuel, parce que finalement, quand on prend la question non pas simplement au niveau, et enfin simplement, ce n'est pas un problème simple, mais au niveau écologique des pollutions, mais qu'on se dit pourquoi avoir perdu quelque chose comme le ciel étoilé est une perte justement. Après tout, puisque ça ne fait pas de mal aux étoiles, vous l'avez rappelé, puisque ça ne remet pas en cause, je dirais, les grands ordres de l'univers, le fait de ne plus voir ou de ne plus pouvoir contempler les étoiles est néanmoins vécu, par les humains pour le coup, généralement, comme une perte, au point d'ailleurs qu'il faille reconstituer les ciels étoilés de manière aujourd'hui virtuelle. Bon. Alors, il faut se poser cette question-là, et je crois que la réponse, elle est dans la nuit sous toutes ses formes, y compris celle du noctambule, qui effectivement m'intéressait plus dans cet essai, c'est que la nuit, c'est tout de même c'est censé être un espace et un temps, les deux, alternatif au jour. C'est-à-dire c'est un moment, en l'occurrence, ici, où la source de la lumière n'est plus l'unique soleil hein, qui nous darde de ses rayons, mais où on a une infinité, ou en tout cas une multiplicité indéfinie de sources de lumière, les étoiles, et au fond, le plaisir que l'on avait, maintenant il faut peut-être parler au passé, du moins pour ceux qui sont citadins, que l'on avait à contempler les étoiles, c'était entretenir un autre type de rapport au monde, tout simplement, que celui dans lequel il n'y a qu'une seule source de lumière. Au fond, aujourd'hui, on parle souvent de perte dans tous les sens, et de deuil nécessaire, mais je crois que ce qu'il y a de légitime dans le fait de vouloir retrouver la nuit ou reconquérir la nuit, c'est en réalité une des dimensions vraiment centrales de l'expérience humaine, de la liberté même démocratique, c'est d'avoir plusieurs échelles d'expérience, de ne pas être élu à un seul type d'expérience, un seul type de lumière, un seul type de rythme. Et de ce point de vue-là, reconquérir la nuit, ça n'est pas un programme politique, mais c'est quand même quelque chose qui a à voir avec la manière dont on ne veut pas être assujetti à une seule norme.
– À une seule norme, mais la nuit interdit donc, la nuit est incompatible selon vous avec toute réflexion.
– Elle est incompatible en tous les cas avec une réflexion sous la figure du jugement. Elle n'est pas incompatible avec le…
– Mais le qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Il n'y a pas de jugement là. Qu'est-ce que je fais là?
Dans le qui suis-je, on pourrait discuter. Dans le qui suis-je, il y a toujours un peu une dimension un peu morale. Ouais. Et puis qu'est-ce que je fais encore là? Ouais. Alors ça, c'est une expérience que l'on a souvent eue, qu'ont eu ceux qui vivent ce genre de nuit justement, parce que dans le qu'est-ce que je fais encore là, il y a intériorisé le « que fais-tu encore là » de la société, hein, c'est-à-dire plutôt que de dormir, ou alors plutôt que d'aller travailler, ou alors plutôt que d'occuper tes journées à autre chose, ou ton temps plutôt à autre chose qu'à ou la fête, ou d'ailleurs parfois aussi l'insomnie. Donc je pense que la nuit est certainement… il y a des réflexions dans la nuit, mais il n'y a pas une réflexivité, si vous voulez, d'un type moral.
Vous dites que ce qui vous intéresse, vous, ce n'est pas la bonne nuit, au sens où on souhaite aller bonne nuit, va dormir, mais c'est la mauvaise nuit. C'est celle-là qui vous intéresse.
Bah, y a la bonne nuit, évidemment, quand on souhaite à quelqu'un bonne nuit, alors je le fais aussi, hein, mais enfin, quand on souhaite à quelqu'un bonne nuit, on veut en réalité lui souhaiter en général une nuit où rien ne se passe. Hein, c'est-à-dire, bon, éventuellement un rêve, mais pas un cauchemar, et puis où le sommeil, au fond, soit comme un moment, disons, de contraction du temps. Et une bonne nuit, c'est une nuit sans événement. Alors moi, je préfère les mauvaises nuits en ce sens, effectivement. Enfin, je préfère, c'est pas que je les préfère d'une part, mais surtout, je les trouve plus intéressantes. C'est-à-dire, et là aussi, ça renvoie à des problématiques qui ne sont pas seulement philosophiques, la nuit est un espace habité. Il est un espace où il se produit des événements, et il n'est pas seulement habité par des êtres humains, il est habité par quantité d'animaux nocturnes qui souffrent précisément de ces pollutions nocturnes, qui sont en quelque sorte vidées par ces lumières incandescentes.
– Et par des humains. C'est-à-dire que quand on vous lit… –
De plus en plus par des machines, mais parfois par des humains.
– Mais quand on vous lit, on a l'impression que votre nuit à vous, vous personnellement, est plutôt ce qu'on appelle la nuit des noctambules. C'est-à-dire qu'on sent à travers vos lignes, derrière le philosophe, l'oiseau de nuit.
– L'oiseau de nuit, mais l'oiseau de nuit, il peut être… Alors c'est moins le cas pour moi, et puis c'est surtout moins le cas pour des raisons, je dirais, de partage de la population actuelle qu'autrefois. Mais l'oiseau de nuit, ça peut être celui qui marche la nuit dans la nature, hein, qui, alors précisément, là encore, a une chance de voir peut-être le ciel étoilé. L'oiseau de nuit a surtout besoin, l'animal nocturne, il a cette spécificité, et l'homme, il est omnivore, il est omnitemporel aussi, il peut être à la fois animal nocturne et animal diurne. En général, quand on va à la nuit, quelle que soit la raison et quelle que soit la modalité, en boîte de nuit si l'on veut, et aussi devant un ciel étoilé dans la campagne, c'est pour être un peu moins vu, un peu moins regardé, un peu moins jugé. Donc de ce point de vue-là, il y a, quand on va, je dis bien, dans une nuit qui est fidèle à son essence, hein, parce qu'il y a quantité de fêtes où on ne va que pour être vu.
Voilà. Mais ça, ce sont des mondanités. Y compris des boîtes de nuit, d'ailleurs.
Y compris des boîtes de nuit. mais dans ce cas-là, ce sont des boîtes de nuit qui reproduisent de nuit les logiques du jour, les hiérarchies du jour. Alors évidemment, ça existe, c'est même plutôt majoritaire aujourd'hui, et c'est bien pourquoi il faut défendre la nuit, une raison supplémentaire.
Comment vous êtes venu à la nuit, vous-même ?
Alors comment je suis devenu la nuit, lapsus révélateur. Écoutez, moi j'étais astronome amateur quand j'étais tout jeune adolescent. Très rapidement, donc c'était vraiment quelque chose de voilà, j'aimais quand j'étais en vacances à la montagne notamment ressortir cette possibilité de sortir après le repas, voilà, ressortir la nuit, ressortir voir les étoiles. Donc effectivement une soustraction hein, au jeu diurne et puis voilà, la nuit m'enveloppait et je pouvais être un petit peu moi-même et regarder les étoiles. Et puis par la suite, adolescent, je me suis inscrit dans un club d'astronomie amateur, la Société astronomique de Bourgogne, et puis j'ai commencé à faire des animations auprès de publics scolaires, non scolaires, autour de la problématique de l'observation du ciel étoilé, avec un planétarium gonflable qui recrée le ciel étoilé en pleine ville, et même en plein jour, des télescopes, etc. Et puis très rapidement, dans mon cursus de géographie, on m'a proposé de travailler ce sujet, qui aujourd'hui, au départ, m'a paru complètement atypique, qu'il l'était à l'époque, comment traiter de la pollution lumineuse et de la disparition de la nuit en géographe. Et puis dès qu'on y réfléchit 5 secondes, en fait, l'origine du problème de la pollution lumineuse, c'est bien la lumière artificielle qui est un outil pour l'aménagement du territoire, et le traitement de la pollution lumineuse par les territoires se fait bien par l'intermédiaire de l'aménagement du territoire au niveau des gens, au niveau des usages, et la conciliation entre les besoins de lumière artificielle et puis des besoins d'obscurité.
Alors, on parlait tout à l'heure de cette exploitation agricole de tomates. Là, alors, pour donner un autre exemple d'un danger qui menace l'obscurité et la nuit, alors c'est un danger qui vient des États-Unis, c'est le fameux projet d'Elon Musk, le milliardaire américain, le projet Starlink. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu parler, en gros, Musk veut envoyer 12 000 satellites dans l'atmosphère. 12 000 satellites hein, dans l'atmosphère. Alors, ce qui donnerait... alors, évidemment, comme le projet n'est pas encore véritablement lancé, on n'a pas encore véritablement d'image, sauf que un chercheur a modélisé ce que pourrait donner autour de la Terre ces 12 000 satellites en train de tourner, ça donnerait ce genre de truc. Et par contre, un certain nombre de satellites ont déjà été lancés et pour le coup filmés. Et on a cette autre image absolument extraordinaire du train de satellites d'Elon Musk, de Starlink dans l'espace. En quoi c'est un danger ?
Alors, 12 000 prévus pour l'instant, il est même question de 40 000 à terme. Les prévisions d'Elon Musk évoluent de jour en jour. Là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Michael, sur la perte d'une expérience, et notamment l'expérience de nature que constitue l'observation du ciel étoilé. Il y a des écologues dans les années 70, et puis ça a été repris dans les années 2000, qui ont parlé d'extinction d'expérience de nature. Et l'observation d'un ciel nocturne dénué de pollution lumineuse, et ces satellites constituent une nouvelle forme de pollution lumineuse, avec un danger qui ne vient non plus cette fois-ci du sol, mais de l'espace en lui-même, puisque chacun des satellites renvoie un petit peu de la lumière solaire et puis vont créer ce halo de satellites autour du globe. Ces satellites menacent cette expérience de nature et participent de cette extinction de l'expérience de nature. Donc c'est intéressant, c'est que là on peut jouer la notion d'extinction est un petit peu à la mode en ce moment avec celle d'effondrement. On peut jouer un petit peu faire un petit jeu de mots sur cette notion d'extinction. Finalement au niveau du sol, c'est en pratiquant l'extinction des lampadaires d'éclairage public que l'on rallume l'expérience de nature qu'est l'observation du ciel étoilé. Par contre, ce problème d'Elon Musk et de sa constellation de satellites Starlink qui sont là pour donner l'Internet mondial, donner une couverture globale et mondiale à l'Internet, pose de nouvelles questions pour le droit de l'espace, pose de nouvelles questions sur l'appropriation de l'espace, hein, puisque là, finalement, on a une appropriation par Elon Musk et par Starlink, par l'usage de l'espace visuel et du paysage nocturne, d'une partie, d'une moitié du paysage nocturne. Donc c'est quelque chose qui pose de nouvelles questions vis-à-vis de la pollution lumineuse.
Alors en même temps, sur ce projet a une finalité, Samuel Chalayat le disait, la finalité c'est de connecter, alors en haut débit, je n'ai pas bien compris si c'était de la 4G, de la 5G, de la 12G, je ne sais pas, mais en très haut débit, l'ensemble de la planète. J'ai envie de vous dire, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle quand même? D'un côté, effectivement, les impératifs de l'observation astronomique. De l'autre côté, le fait de donner une couverture Internet convenable à l'ensemble des habitants de cette planète.
Moi, je n'ai pas de réponse sur la nécessité, enfin de réponse, je veux dire, technique, hein, sur la nécessité de cette connexion universelle. Il ne me semble pas que le fait que nous soyons, nous, déjà, d'ores et déjà, nous, je veux dire les Occidentaux, très, très connectés, hyper connectés et constitués ipso facto un progrès non seulement démocratique, mais même économique. Bon. Donc, je veux dire, le but en lui-même me paraît moins déterminant qu'en réalité ce que suggérait Samuel, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'espace est devenu, comme l'est devenu à un moment la mer, puis l'air, enfin l'air de l'atmosphère quand même humaine, un enjeu politique, un enjeu d'appropriation, de captation, et que de ce point de vue, ça va poser évidemment quantité de problèmes par rapport à ce qu'on pourrait considérer ce qui était l'ultime refuge, en quelque sorte, de ce qui échappait à la propriété privée, c'est-à-dire le ciel. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un côté universel dans l'accès, enfin il y avait plus exactement, un caractère égalitaire dans l'accès au ciel. Hein, il y a même des très beaux textes, déjà très anciens, qui disent au fond qu'est-ce qui reste aux pauvres, accrochés à sa charrue, pauvre paysan accroché à sa charrue en guise de consolation. C'est saint Augustin qui dit cela. Il lui dit, il a au moins la consolation des étoiles. Bon, évidemment, c'est déjà peu de choses, mais enfin, même cela, visiblement, peut être repris parce qu'au fond, quand on dit perte de l'expérience de la nuit, si on veut politiser un petit peu ou le comprendre de manière, je dirais, sociale au minimum, il faut comprendre que la nuit est quand même un espace qui est traditionnellement soustrait à la prédation, à la productivité, y compris dans le sommeil, hein, y compris dans les nuits les plus bonnes ou les plus sages. Hein, c'est quand même censé être précisément une possibilité de couper, je dirais, les boutons qui nous relient ou qui nous connectent, puisqu'on en parlait, au monde social. Bon, si on doit, je dirais, n'être entouré que ou à la place ou en lieu et place des étoiles par des satellites. D'ailleurs, il y a aussi une idée, là, c'est presque d'un côté métaphysique, c'est-à-dire, au fond, c'est cette idée que rien n'est au-dessus de l'homme, enfin, de la créativité humaine. C'est-à-dire, même les étoiles, au fond, ouais, sont maintenant concurrencées par notre propre production technique.
Mais tout de même, Samuel Chalayat, on n'a pas une réaction de riche, là. On n'a pas une réaction de riche et d'hyper-connecté en refusant l'accès à cette hyper-connexion de ceux qui ne le sont pas encore.
Effectivement, et d'ailleurs, quand on regarde, même au-delà de ce problème de Starlink, etc., quand on regarde les images satellitaires de la Terre vue de nuit, on voit que ce combat contre la pollution lumineuse est un combat de pays riches. C'est un combat de pays qui a un très fort accès à l'énergie. Mais je pense que la perte de nos capacités d'émerveillement, si dans les années à venir, on perd cette capacité de s'émerveiller devant un ciel nocturne, et si le seul ciel nocturne qu'on a est un petit peu à l'image de celui des villes, ou quand on lève les yeux dans le ciel parisien, ce qu'on voit le plus, c'est les avions qui transitent Orly, Roissy, etc., et puis tous ces points qui clignotent. Si notre expérience de nature nocturne, c'est ça, dans les années à venir, je pense que ça pose question. Et c'est à nous aussi de poser cette question par rapport à ces satellites, puisque c'est nous, nos pays, qui les envoyons. Donc, de quel droit est-ce que l'on colonise l'espace global, hein, qui, lui, n'a pas de frontières, hein, au-delà de 100 km, le droit nous dit il n'y a plus de frontières étatiques, on est dans c'est le droit spatial qui s'applique. Mais le droit spatial est fait par et pour les pays occidentaux, donc c'est aussi à nous, pays occidentaux, de poser ces questions-là, il me semble.
Alors, pour en terminer avec cette colonisation de la nuit par les impératifs économiques et libéraux, vous citez dans votre livre une toile une toile du 18e siècle qui s'appelle Les filatures de coton d'Arkwright, la nuit, qu'on va voir là. En quoi cette toile nous montre, si j'ai bien compris, un monde en train de basculer?
C'est une toile qui a été peinte au début de la révolution industrielle, hein, au début du XVIIIe siècle, et qui effectivement, quand on voit, on la voit à l'image, là, quand on voit le combat en quelque sorte, ou en tout cas le contraste très fort entre deux types de lumière, je dirais la lune qui en haut tente encore d'être l'une des sources, on voit déjà plus les étoiles d'ailleurs, il faut le noter, mais la lune qui tente...
C'est couvert. Hein.
Voilà, c'est couvert. D'être, mais on ne sait pas si c'est couvert uniquement par des nuages ou d'ores et déjà par de la fumée qui émergerait de
C'est une filature, donc...
Non, mais derrière. Je parle de ceux qu'on voit très en blanc. Bon, mais cela dit, ce qui est surtout marquant, c'est effectivement la lumière artificielle qui est présente dans la fabrique, et puis c'est depuis elle, visiblement, qu'on voit les nuages, ou à partir, ou grâce à elle, qu'on voit les nuages blancs sous la lune. Donc au fond, il y a c'est un symbolisme, d'ailleurs très dépassé aujourd'hui par rapport aux images qu'on a vues photosatellitaires tout à l'heure, de ces deux lumières, alors que moi je n'opposerais pas terme à terme, hein, la bonne qui serait la naturelle, la mauvaise qui serait l'artificielle, mais évidemment quand l'une remplace tendanciellement l'autre, surtout quand on parle des lumières blanches, ces lumières de néon, hein, qui sont des lumières qui au fond ne sont pas, c'est pas tellement l'application au jour des lumières, à la nuit pardon, des lumières du jour, hein, le néon ça marche 24 heures sur 24, hein, c'est ce qui d'une certaine manière abolit la différence entre le jour et la nuit, donc c'est la victoire, le triomphe de la lumière artificielle sur la lumière naturelle qui me paraît préoccupant. Là, il y a encore une beauté, c'est quand même une œuvre d'art, il y a une beauté dans le combat que semble, dans ma perception des choses en tout cas, dans le combat auquel se confronte, disons, la lumière qui vient des hommes et puis la lumière qui vient du ciel.
Alors, il y a un aspect qu'on a abordé à la marge, mais qui est quand même extrêmement important dans ce combat contre les pollutions lumineuses, c'est les atteintes qu'elles portent à la biodiversité, aux animaux. Pour le coup, ça me semble être l'aspect le plus médiatisé à ce jour par les médias français, parce que là, c'est concret, c'est facile à comprendre. Un exemple avec, souvent retrouvé d'ailleurs sur différentes chaînes, à propos des dangers de la lumière pour les crapauds.
Même à la campagne, trouver l'obscurité totale devient une affaire de spécialistes. Nous retrouvons Thierry Langagne, chercheur au CNRS. Il est 23h.
Donc là, on est à un peu plus de 20 km de Lyon, en pleine campagne. Il n'y a plus du tout d'éclairage direct autour de nous. Mais on voit quand même, droit devant nous là-bas, le halo produit par la ville de Lyon.
Ce scientifique réalise une expérience pour mesurer l'impact de l'éclairage public sur les crapauds.
Pendant plusieurs jours, et avec l'aide de rubans de LED, il va reproduire la pollution lumineuse à laquelle sont soumis ces crapauds.
Donc là, on va passer à une autre salle qui correspond à l'intensité qu'on avait sur le bord de la dombe.
L'équivalent de ce que les animaux captent au sol à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Et dans la dernière salle, c'est la luminosité de bordure de ville qui a été reconstituée.
Et donc on va voir l'écart, on a 10 fois plus de lumière encore que dans la salle précédente.
Pendant 3 semaines, ces crapauds passeront leur nuit dans le laboratoire, exposés à cette pollution lumineuse.
Ça altère leur façon de se déplacer et la quantité de déplacement dans les caisses. Et puis on a aussi montré des effets très importants sur le métabolisme des animaux, et en particulier le métabolisme de base. Des animaux au repos ont besoin de beaucoup beaucoup plus d'énergie alors qu'ils sont au repos et qu'ils ne font rien, dès lors qu'ils sont soumis à la lumière la nuit.
La pollution lumineuse pourrait également altérer leur capacité reproductive.
Avant de les relâcher, il faut prélever un peu de salive pour étudier le taux d'hormones dans leur organisme. Résultat, les crapauds exposés mettent 3 fois plus de temps pour se reproduire.
Et bien sûr, ce ne sont pas seulement les crapauds, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut donner une idée générale du désastre que représente la pollution lumineuse pour les espèces ?
Alors c'est un peu compliqué de donner un point de vue très général. Il y a quelques espèces qui commencent à être bien étudiées. Donc effectivement, les travaux de Thierry Langagne portent souvent la focale sur les batraciens. Un groupe d'espèces qui est très bien étudié, ce sont les chiroptères, les chauves-souris, où là on montre aussi de nombreux effets. D'une façon générale, dès lors qu'on met donc place dans un milieu qui en est naturellement dépourvu de la lumière qui porte bien son nom, qui est artificielle, on génère des effets négatifs sur les populations animales qui vivent dans ce milieu. Ces effets négatifs, ils sont très très variés. Ça peut être des perturbations comportementales dans les comportements de vol, dans les trajectoires de déplacement, dans les trajectoires de vol. Sébastien Vauclair nous parlait tout à l'heure des oiseaux migrateurs qui s'orientent avec le champ magnétique, avec les cartographies du ciel nocturne, et qui vont être désorientés dans leur migration quand elles vont à l'approche, par exemple, d'une grande agglomération. Et puis à l'échelle beaucoup plus fine, à l'échelle du luminaire par exemple, du lampadaire, on a des perturbations sur les comportements des insectes qui vont se retrouver très rapidement attirés ou alors repoussés par cet éclairage artificiel. On observe chez les oiseaux des comportements, des modifications de comportement en termes de communication. Voilà, des oiseaux qui n'arrivent plus, et les batraciens aussi, qui n'arrivent plus à communiquer parce qu'ils sont obligés de décaler leurs horaires de communication, leurs horaires de chasse, etc. Donc, des effets sur à peu près l'ensemble du vivant, si ce n'est le vivant qui habite dans les grandes profondeurs marines. Mais sinon, il faut bien avoir en tête que l'ensemble du vivant est régi depuis plusieurs millions d'années par cette alternance naturelle du jour et de la nuit. Donc nos rythmes biologiques et les rythmes biologiques des mammifères et de l'ensemble du règne du vivant, y compris les végétaux, sont régis par cette alternance naturelle entre lumière et obscurité. Et dès lors qu'on introduit de l'éclairage artificiel, on perturbe cette alternance naturelle avec tout un tas d'effets en cascade. Mais la montée au niveau des enjeux de biodiversité, ça reste un front de science actuellement qui est en cours d'exploration.
Ça peut aller jusqu'à un risque d'extinction ?
Alors on a effectivement un effet de vidange, un effet d'aspirateur dans les milieux artificiellement éclairés, notamment au niveau des populations d'insectes, hein, qui sont des populations au sommet de la chaîne alimentaire. Et donc on sait qu'il va y avoir des effets en cascade.
Les insectes, enfin, ouais. À la base.
Voilà, la base.
À la base de la chaîne.
À la base, pardon. À la base. Tendance à l'inverser, mais voilà. Mettre au sommet en termes d'importance pour la chaîne alimentaire. Avec des effets en cascade, y compris sur les végétaux. Par exemple, s'il y a une perte drastique de pollinisateurs nocturnes, notamment les papillons de nuit, dans certains milieux éclairés, eh bien, le succès reproducteur des plantes va s'en trouver amoindri.
Alors, vous parlez tous les deux en amoureux de la nuit, en fait, hein, chacun dans votre registre. Mais en même temps, voilà, il y a quand même un gros boulot, parce que la nuit a mauvaise presse aussi.
La
nuit des temps.
La nuit a mauvaise presse pour des raisons de linguistique quasiment ou métaphoriques. Par exemple, quand on veut désigner ce qui est souhaitable ou désirable politiquement, on parle, ou intellectuellement, on parle de l'époque des Lumières.
La nuit, et de la nuit du Moyen-Âge.
Et de la nuit du Moyen-Âge,
par opposition.
On parle de l'obscurantisme, évidemment, de ce qui précède l'illumination par le savoir. Bon. Alors, à la limite, je dirais que là, il faut partir aussi d'un autre fait qui est le plus important linguistique, c'est que on parle de l'alternance jour-nuit, mais le mot jour a ceci de particulier qu'il désigne à la fois la journée et puis l'intégralité des 24 heures que sont le jour et la nuit. Donc il a un avantage sémantique immense, puisque quand on dit « ça s'est passé tel jour », au fond, on présuppose ou on induit qu'en réalité, c'était pendant la journée, pendant que le soleil était levé. Mais alors du coup, la nuit prend nécessairement dans le discours, ou dans le langage déjà, un aspect plus subversif, hein, c'est-à-dire qu'elle a les qualités de ses défauts, si je puis dire. Comme elle est toujours minoritaire, même par rapport linguistiquement au fait que le jour désigne la totalité, quand vous commencez un récit en disant « ça s'est passé la nuit », vous éveillez en principe un peu un intérêt supérieur à tel jour. Pas toujours, pas systématiquement, mais enfin, la nuit est un espace où les attentes, en termes, disons, d'événements, sont plus importants.
Il y a des contre-exemples. Hein. Par exemple, c'était pendant l'horreur d'une profonde nuit.
Mais bien sûr, mais ça attire l'oreille.
Ah, ça attire.
C'est mieux que c'était pendant le calme d'une journée paisible. Si vous
c'est vrai, ça.
Donc,
c'est vrai, ça attire.
On a envie de savoir ce qui se passe, même si ce qui se passe est effrayant. Alors, et là, on touche à l'autre point, c'est qu'en plus, évidemment, la nuit est un espace-temps, si je puis dire, assujetti à des événements qui ne préviennent pas. Puisque quand c'est la vision qui est atteinte, comme le sens principal atteint, c'est la vision, il nous reste l'ouïe et le toucher. Mais l'ouïe et le toucher, le problème, c'est qu'au moment où on entend quelque chose ou au moment où on touche la chose en question, elle est déjà là. Hein, elle est à portée de main, c'est le cas de le dire, ou toute proche. Et donc l'idée d'une menace, plutôt l'expérience de la menace, est beaucoup plus forte. Alors après, Je dirais que c'est une affaire sans doute de psychologie ou de biographie. On peut être attiré un peu par ce qui nous met à l'épreuve, met nos corps à l'épreuve, je veux dire, ou au contraire, il n'y a d'ailleurs aucune norme là-dedans, ou au contraire, préférer fuir la nuit. Ce qui est beaucoup plus discutable, et là je redeviendrai un peu normatif, c'est de vouloir vider la nuit, y compris par des lumières artificielles beaucoup trop violentes, de tout ce qui en elle fait altérité. Quoi. Et de ce point de vue-là, je pensais, en écoutant ce que disait Samuel tout à l'heure sur la manière dont les animaux étaient finalement, un certain nombre d'animaux disparaissaient du simple fait qu'on braquait sur eux de la lumière, ça s'est produit aussi à propos de monde humain, hein, en tout cas de société, de micro-société humaine. Si on lit par exemple Les Nuits parisiennes de Nicolas Rétif de la Bretonne, pardon, Les Nuits parisiennes qui racontent le moment où Paris a commencé à s'illuminer ou à recevoir des lumières artificielles,
au XVIIIe siècle,
peu avant la Révolution, où il explique comment, enfin il raconte, puisqu'il est lui-même, il devient hibou d'ailleurs, il se compare à cela, et il devient hibou, il y voit mieux la nuit que le jour au bout d'un moment, il raconte comment des agencements sociaux, des formes de sociabilité évidemment qui étaient un peu marginales, ont fini par disparaître du jour au lendemain, du seul fait, ou alors se cacher encore un peu plus loin dans la ville ou derrière la ville, du seul fait qu'on a imposé des lumières.
Alors, à quoi fait-il allusion ?
Des formes, disons, de brigandage. Il fait allusion, pour ne pas faire allusion simplement aux choses qui sont, disons, qu'on condamnerait peut-être nécessairement, hein, qui sont illégales. Il faisait allusion à tout ce qui restait d'esprit carnavalesque chez les étudiants parisiens du quartier latin de l'époque, c'est-à-dire les jeux, ce qu'on pourrait juger aujourd'hui comme des actes de nuisance par rapport aux riverains, hein, bon, qu'il menait pour remettre en cause les hiérarchies politiques de l'époque.
Alors, il n'y a pas que les géographes et les philosophes qui aiment bien la nuit, qui aiment bien jouer avec la nuit, qui aiment bien réfléchir sur la nuit. Il y a une autre catégorie qui sont les cinéastes qui font une exploitation. Alors là, on aurait pu prendre des dizaines et des dizaines d'extraits de films, mais plus particulièrement un type de cinéaste, les cinéastes de ce qu'on appelle les films d'horreur ou les films de genre. Je voudrais qu'on prenne juste deux exemples empruntés à Halloween et à Scream.
Tatum, just get in the car.
Hello, Sydney.
Hi. Who is this?
You tell me.
Well, I have no idea.
Scary night, isn't it? With the murders and all, it's like right out of a horror movie or something.
So where are you?
Right here.
On voit que la nuit est formidablement cinégénique.
Elle est cinégénique parce que la force ou la puissance évidemment du cinéaste, c'est de montrer des images même de ce qui en principe ne se voit pas ou reste dans l'obscurité.
Là, ça nécessite une science de l'éclairage quand même très, très aboutie. Hein.
Et puisqu'il est censé montrer, le spectateur est censé voir aussi un peu plus que celle qui, ça, visiblement, hein, je ne connais plus la suite de cette scène, mais enfin s'annoncera comme ou s'avérera être la victime. Évidemment, la nuit c'est une histoire de perception d'abord, c'est donc une histoire où les perceptions deviennent très vite des événements. Puisque comme on voit, ou plutôt on perçoit les choses vraiment quand elles sont toutes proches de nous, on ne peut pas les prévoir ou les anticiper, en tout cas par le regard. Si on entend par événement quelque chose d'un peu qui surgit, hein, on sent bien d'ailleurs que la dramaturgie, là, elle est fondée sur l'idée que quelque chose depuis, comme on le dit d'ailleurs, depuis l'obscurité va surgir. Une perception qui est en même temps un événement, ça a quelque chose de souvent très effrayant, mais c'est parfois aussi désirable.
De la même manière qu'il s'agit de préserver la vision possible des étoiles, qu'il s'agit de préserver la vie des espèces, est-ce qu'il est important de préserver la peur de la nuit?
Moi, je pense, oui. Et pour revenir à la petit crochet par le cinéma, où on sent dans les films d'horreur l'importance de la bande-son, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Michael, hein, une fois qu'on est privé de la vue, c'est d'autres sens qui prennent le relais, notamment l'ouïe, cette espèce d'hyperesthésie auditive qui nous met sur nos gardes et qui sont aussi des atavismes de l'époque, où, époque très très ancienne, où on vivait dehors et on était sous la prédation de bêtes sauvages.
Et où le moindre bruit,
était censé, on est sur nos gardes, et c'est ça qui va nous réveiller. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on a aussi d'autres processus. On sait qu'on ouvre les yeux entre 10 et 15 fois par nuit pour vérifier machinalement notre environnement sans nous en rendre compte.
Ah oui ?
Sans nous en rendre compte si on est dans l'obscurité. Sauf que si on dort avec un peu de lumière artificielle, on va se remettre en état de veille et on ne va pas rester en état de sommeil. Alors, cette question de... Moi je pense qu'il faut maintenir prendre soin de nos peurs. Et je m'appuie là-dessus sur des travaux de psychologues, notamment dans psychologues de l'enfance, qui montrent que la peur de la nuit est nécessaire à l'enfant pour qu'il se construise son folklore de la peur. Voilà, et qu'il sache répondre par lui-même à cette peur qu'on a tous vécu, qu'on a tous ressenti, y compris adultes. Moi, des fois, certaines nuits de terrain, à 3-4 heures du matin, dans des prairies, dans des forêts, dans des endroits isolés, je peux vous dire que quand vous avez quelques bruits et quelques yeux jaunes qui vous tournent autour dès que vous allumez la moindre lampe, voilà, ça, la peur du loup est encore bien présente, même chez les adultes. Mais ces peurs, elles sont nécessaires dans les processus d'individuation. Voilà, ça, c'est des choses que nous disent bien les travaux de la psychologie enfantine, enfin, psychologie de l'enfance, pardon, et puis de la psychologie de l'environnement. C'est qu'on a besoin de faire l'expérience. Là aussi, on en revient toujours à cette notion d'expérience, à cette notion de sensible vis-à-vis de l'obscurité, vis-à-vis de la nuit. L'obscurité en tant que quasi-matériau, un milieu. On entre dans l'obscurité comme on va en montagne et comme on va en mer, et pas seulement à la montagne ou à la mer. Voilà, on entre dans l'obscurité, on est enveloppé dans l'obscurité, et puis... Quand on se réveille, qu'on est jeune et qu'on se réveille en pleine nuit, nos yeux sont bien habitués à l'obscurité et tout d'un coup on voit des formes un petit peu bizarres. Et en plus, quand on se réveille, qu'on dort ailleurs que chez soi, par exemple, qu'on est en vacances dans un gîte ou chez un ami, etc., on ne connaît pas bien l'environnement. Et tout de suite, là, c'est le folklore de la peur qui va prendre le relais. Et c'est une peur nécessaire, effectivement, à l'individuation, je pense.
Alors, un autre extrait de film, parce qu'il est vraiment très, très significatif de la dualité entre l'obscurité et la lumière, c'est une des scènes finales du Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock. Alors, je résume, le gentil est le personnage en fauteuil roulant, le méchant est le personnage valide qui fait irruption dans l'appartement.
Can you get me that ring back? No. Tell her to bring it back.
I can't. The police have it by now.
Où on voit que le héros, qui est aussi photographe par ailleurs, donc qui dispose d'un flash, fait reculer, retarde l'agression de son agresseur au moyen de ces flashs de lumière. Oui.
Oui, il y a toute une mythologie là que convoque Hitchcock, une mythologie selon laquelle les êtres nocturnes sont, enfin pas les êtres nocturnes sont malfaisants, mais les êtres malfaisants sont généralement nocturnes. On pense aux vampires, ils ne supportent pas la lumière, c'est-à-dire que la lumière, ce qui d'une certaine manière les fait sortir de l'équivoque, les terrifie en même même temps. Et donc je crois que il joue là-dessus, évidemment, avec ces flashs qui sont censés retenir ou tenir à distance l'agresseur. Je dirais que c'est la limite, effectivement, des valorisations purement romantiques de la nuit et des critiques radicalement naturalistes, disons, de toutes les lumières naturelles. Il y a, je dirais, des bonnes lumières naturelles. Bon, là, heureusement, ce flash va aider provisoirement, du moins, le héros. Et puis, la lumière naturelle, après tout, sa première forme, sa première figure, la lumière artificielle, pardon, c'est le feu. Hein. Donc, ce n'est pas encore, on n'en est pas encore à la période des néons qui abolissent toute espèce de distinction entre la nuit et le jour, ou qui nie, au fond, les couleurs nocturnes, qui est des couleurs nocturnes. Le feu, c'est quelque chose aussi d'émouvant dans la manière d'apprivoiser humainement la nuit, tout en essayant de la respecter. Le feu en est un exercice, c'est-à-dire on est plutôt un élément. Vous avez dit effectivement, la nuit, c'est l'élément de la peur. Et cette peur, elle a quelque chose effectivement de constitutif, sans doute, dans l'expérience humaine. Mais nous sommes aussi heureux de pouvoir marcher dans la nuit sans rien risquer, ou en risquant le moins possible, je dirais, du fait quand même des appareillages qui sont devenus évidemment beaucoup trop importants aujourd'hui en termes de vidéosurveillance, mais disons du simple fait d'avoir une lueur qui nous permette de nous mouvoir. Et donc la domestication humaine de la nuit, elle a certainement atteint maintenant un seuil par rapport auquel il faudrait essayer de rétrocéder, mais elle a été quand même une conquête, fondamentalement.
Alors, entre la nuit et le jour, il y a une période intermédiaire qui s'appelle l'aube. Et c'est justement à une scène de film, pour refermer la page cinématographique de cette émission, c'est justement une scène de film se déroulant à l'aube, c'est-à-dire à la fin de la nuit, que vous consacrez un développement dans votre livre, donc à une scène de la Dolce Vita de Fellini. Est-ce que vous pouvez juste situer à quel moment du film elle intervient avant qu'on la regarde ?
Elle intervient à la fin du film, elle intervient surtout, bon, le film est une mise en scène de fête interminable d'une petite troupe romaine de noctambules, avec Marcello Mastroianni qui est en quelque sorte au centre. Et donc la scène qu'on va voir, c'est une scène qui est justement une scène de fin de fête, de fin de nuit, où la question qui se pose à tous ces noctambules, c'est comment aménager une transition entre la nuit et le jour, avec évidemment la gueule de bois qui va arriver. Et donc cette petite bande de noctambules arrive sur une plage au tout petit matin et va être confronté à ceux qui, sur cette plage, travaillent déjà, se sont réveillés pour travailler et ne sortent pas d'une énième nuit d'ivresse.
On les regarde.
Ah, la natura. L'alba mi fa sempre effetto. Tanto. Ieri sera stavo così bene, tutto truccata. Adesso mi sento tutta appiccicosa. Ma a me, che mi interessa più di questo? Io ormai mi voglio ritirare. Sento che devo far penitenza.
Indietro, indietro, stare indietro!
Andiamo che arrivi, piano! Anche di doppia rete!
Avete fatto la fortuna che questo pesce vale milioni!
Ehi ragazzi, venite a vedere, c'è un mostro!
Scusate!
Caterina, l'uomo non ha capito un tuo ruolo! Schnell!
Vediamo!
Oh, terrible!
Oddio, lo scogliate!
Io ho la più bella medusa.
Ma è vivo!
Questo è morto da tre giorni.
Non volevo andare in mare stamattina.
È maschio o femmina?
Ma che c'è da guardare qui?
Chi ti ha dato questa cosa? Perché? Bella. Le vuoi bene la mamma? Bravo, bisogna voler bene la mamma.
Ah, tu dico, parlo.
Perché non lo compriamo?
Ce lo vendiamo.
Ma non c'è una spesa, ma non è la osta.
Ma hai visto la davanti di dietro?
Che strano, mi sa da dove viene.
Beh, è una curiosità,
questo
vorrei sapere.
Questo viene da
Perché di Australia?
Ma è possibile che non sappia quello davanti e di dietro? Però, poverino. Ma.
E questo insiste a guardare.
Voilà, le choc de deux mondes, les pêcheurs et les noctambules. Qu'est-ce que ce choc nous dit? Qu'est-ce que Fellini veut nous dire à travers ce choc?
Je crois qu'il y a quelque chose quand même là d'assez moral, hein, et de même un peu métaphysique, parce que c'est l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. On les voit sortir, en particulier Marcello, donc, et puis lui sort, le monstre marin sort de la mer. Il est mort, mais il regarde quand même. Et le regard qu'il jette, c'est un regard inquisitorial, en quelque
c'est
sorte.
C'est ce fameux regard qui juge,
dont c'est vous le regard qui juge
au début de l'émission. C'est-à-dire c'est ce peuple décadent des noctambules qui est jugé par...
qui est jugé, alors là, par un animal particulièrement monstrueux. Donc, c'est un regard qui n'a même pas, disons, la bienveillance qu'on peut attribuer, par exemple, au regard de Dieu, a priori. Là, c'est vraiment une condamnation sans appel de cette vie, et qui va d'ailleurs être, je ne spoil pas, mais qui va être perçue comme telle par Marcello. C'est-à-dire, effectivement, cette énième nuit, à quoi bon qu'est-ce qu'elle rapportera encore de nouveau? Parce qu'évidemment, il ne faut pas nier ce qu'il y a de déceptif, de décevant, souvent, dans ceux qui investissent la nuit comme un espace d'alternance, comme un temps où vraiment la fête va être inoubliable. Il y a des phénomènes bien connus de la gueule de bois. Là, c'est une gueule de bois morale, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, le monstre vient, en plus avec les pêcheurs, qui effectivement, eux, ont un intérêt, je dirais, au monstre, un intérêt pratique. Là, cette bête nous rappelle à Marcello que la nuit est finie et qu'au fond, il serait peut-être temps de se réveiller, mais de se réveiller au sens de rentrer à nouveau dans une vie qui n'est pas forcément une vie de labeur, hein, ce n'est pas du tout le sens moral du terme.
Avec une lumière extraordinaire qui, je trouve, évoque formidablement justement l'aube, c'est-à-dire cet état intermédiaire. Ni vraiment la nuit, ni le jour. Vous connaissiez le film, vous connaissiez la scène.
Oui. Et effectivement, je suis assez d'accord. Il faut souvent, je rappelle qu'il ne faut pas idéaliser la nuit urbaine, notamment, hein, parce que le mot liberté, c'est un des mots qui revient le plus souvent dans la bouche des noctambules. Voilà. Liberté de tout faire. La nuit, on peut tout faire. Je peux me jeter nu dans la fontaine, ou dans Garonne, etc. Place Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent Toulouse. Voilà, c'est des nuits festives. Mais cette nuit festive, cette nuit d'inversion des jeux sociaux, cette nuit elle n'est acceptée que s'il y a retour à la normale le lendemain matin, quand revient le jour. Elle n'est acceptée par l'ordre social, hein, par le corps social. C'est carnaval, c'est les inversions. Les rites d'inversion sont souvent des rites nocturne, mais pour qu'il y ait rite d'inversion et pour qu'il y ait acceptabilité et acceptation du rite d'inversion, il faut qu'on sache qu'il y ait retour à la norme et retour à la normale durant le jour.
Alors, pour revenir maintenant au réel, au monde d'aujourd'hui, et à la manière dont la nuit et les agressions dont elle est la cible sont gérées par les pouvoirs territoriaux, un certain nombre de collectivités locales, de communes, commencent à se transformer en combattants de la nuit, en alliés de la nuit. Alors, un certain nombre de reportages y sont consacrés. On va en voir trois successifs dans les communes de Saumur, dans le Maine-et-Loire, de Mionnet dans l'Ain et de Lille.
À Saumur, on a tout simplement décidé d'éteindre les lampes.
C'est un geste pour les oiseaux, mais aussi la faune et la flore, puisque entre 1h et 6h, il y a l'obscurité quasiment totale sur cette ville.
Cette nuit, la rue Saint-Nicolas est un laboratoire pour la municipalité. Une quinzaine de lampadaires équipés d'une petite cellule qui détecte les mouvements et déclenche l'allumage des lampes basse consommation durant 3 minutes.
Certaines communes vont plus loin, comme à Mionnet, 2000 habitants. Sur décision du maire, à 23h, extinction des feux.
Voilà, donc vous voyez, les lumières sont éteintes. Maintenant, la commune est pratiquement toute dans le noir. Voilà, jusqu'à demain matin, 5h30.
Un éclairage trop intense qui affecte les espèces. Un problème encore plus aigu dans les grandes villes, comme ici à Lille. C'est pourquoi la capitale du Nord s'est lancée dans un programme ambitieux pour réduire ces lumières. Avec une première en France dans ce parc, très prisé des coureurs. La création d'une trame noire, 2 km aménagés avec 300 lampadaires nouvelle génération.
Ça, c'est donc de la LED en braie à 1700 Kelvin. Donc c'est une température très très douce qui n'agresse pas du tout l'œil des mammifères déjà et qui n'émet pas dans des lumières qui attirent et détruisent les insectes.
Alors, toutes les expériences ne se déroulent pas de manière aussi idyllique. L'exemple de la commune de Jouer-les-Tours où on est revenu en arrière.
À Jouer-les-Tours, en 2009, ce quartier pavillonnaire était plongé chaque nuit dans le noir. Le projet mis en place par Marilyn Mauroy, qui appartenait à l'ancienne municipalité, n'a duré que 4 mois. Depuis, les lampadaires boules, obsolètes et énergivores, éclairent à nouveau les rues.
Donc ça, en matière de pollution lumineuse, c'est extraordinaire parce que ça vous éclaire plus le ciel que le sol.
Face aux protestations des habitants, la mairie a dû faire marche arrière. Nous avons retrouvé l'un des plus farouches opposants au projet.
Bonjour madame.
Michel Laurette est président de l'association des copropriétaires. Leur principale crainte était de voir augmenter l'insécurité. Aujourd'hui, il est beaucoup plus serein.
Est-ce que vous êtes rassuré en marchant dans la rue ?
Alors avec l'éclairage, oui. Sans éclairage, non.
À jouer les tours, comme à Saumur, les statistiques de la délinquance n'ont montré aucune augmentation des agressions la nuit.
Alors voilà, pendant l'expérience, il n'y a eu aucune augmentation des agressions. Et néanmoins, un certain nombre d'habitants se sont sentis en insécurité parce qu'on leur avait coupé l'éclairage. Qu'est-ce que vous répondez, vous, en tant que protecteur de la nuit et de combattant contre les pollutions lumineuses, à ces habitants qui disent, bah oui, mais enfin, voilà, la sécurité ou le sentiment de sécurité ?
Alors, combattant de la pollution lumineuse, et puis surtout, j'accompagne régulièrement des démarches territoriales de mise en protection de l'obscurité. Et j'ai participé avec des collègues géographes et écologues au programme Trame Noire sur l'île, à la mise en œuvre. Je réponds qu'il y a un compromis d'aménagement à trouver, qu'il y a toute une gradation de possibles entre l'extinction et le fait de laisser allumer des lampadaires qui, effectivement, éclairent plus en direction du ciel qu'en direction du sol. Alors, il y a un compromis d'aménagement qui peut être trouvé par du solutionnisme technique, hein, si on veut installer des nouveaux matériels à LED qui permettent la gradation de la lumière avec des horloges ou des systèmes de télégestion, d'éclairage à la demande sur simple envoi d'un SMS par exemple. Donc solutionnisme technique qui n'est peut-être pas la voie que moi je préfère hein, d'un point de vue politique. Et puis il y a aussi des peut-être plus à mettre en avant des procédures de choix collectif renouvelées, c'est-à-dire déjà de faire de poser dans le débat public la question des besoins de lumière et des besoins d'obscurité. Est-ce que la personne qui effectivement se dit rassurée quand elle marche dans la rue grâce à l'éclairage artificiel nocturne marche dans cette rue à 3h, à 4h du matin ?
Voilà. Ça arrive.
Ça peut arriver. Mais il faut arriver en fait généralement pas trop dans ces quartiers résidentiels et pavillonnaires. En fait, tout l'enjeu aujourd'hui en termes d'aménagement du territoire et pour arriver à ce fameux compromis d'aménagement du territoire, c'est de mettre en adéquation les besoins de lumière artificielle avec les usages nocturnes de l'espace. Sauf que les usages nocturnes de l'espace ne sont plus réductibles aujourd'hui aux usages humains, mais il faut comprendre dans ces usages les usages non humains, notamment d'un point de vue biodiversité.
Voilà, la solution est dans le compromis.
Oui, certainement. Bon, je ne pense pas de toute façon que les questions liées à l'insécurité, d'une manière générale, puissent être résolues uniquement par des moyens techniques. Hein. Il faut quand même considérer et envisager qu'elles ont des causes, l'insécurité, je veux dire, à des causes sociales qui sont plus profondes. Et que la question de la lumière, ici, elle vient quasiment un peu trop tard. Hein, alors après, il y a les lumières qui s'allument et qu'on rallume, et puis il y a les lumières qui s'éteignent. Les lumières qui s'éteignent, ce sont les lumières naturelles, souvent. Les lumières qu'on allume, ce sont le plus souvent des lumières artificielles. Mais il y a aussi une vie nocturne qui est, je ne dis pas en danger, mais enfin, du fait de l'embourgeoisement des grandes villes, et tout de même, et aussi d'ailleurs, il faut quand même le noter, je pense sociologiquement, ça, je n'ai pas étudié la chose, mais intuitivement, ça me paraît évident, l'importance prise par le tourisme dans nos villes, à Paris par exemple, fait que la vie nocturne, qui n'est pas forcément polluante, hein, je dirais, qui n'est pas forcément non plus celle de la. Je dirais de la festivité sans limite, hein, qui peut être aussi celle d'une certaine forme de sociabilité hors travail, je dirais hors temps de travail. Cette vie est de plus en plus considérée avec une certaine forme de méfiance par les autorités. Hein. On a créé
Paris by night.
Très intéressant ce que tu dis, parce que quand on prend l'appel à sauver la nuit, il a été lancé en même temps il a été lancé dans les années 70 par les astronomes, et puis dans les années 2000 et 2010 par le monde de la nuit parisien. Et donc, qui voulait aussi sauver la nuit, mais c'est pas la même nuit.
C'est plus la nuit festive. Mais elles ne sont pas forcément incompatibles, d'ailleurs qu'on considère que la nuit est un espace pour des habitations. Alors, des habitations humaines, des habitations non humaines. Ensuite, il faut voir techniquement comment elles ne peuvent pas se marcher l'une sur l'autre, si je puis dire, mais elles peuvent, à mon avis, être conciliées dans cette idée, au moins, que la nuit n'est pas simplement un espace dévolu à la reconstitution de la force de travail par le sommeil. C'est ça. Métro, boulot, dodo. Bon. Cette manière, disons, de gérer le temps uniquement en fonction d'impératifs productifs est quand même le point commun, aux adversaires de la nuit sous toutes ses formes. Souvent, on dit évidemment le noctambule, c'est l'ennemi du riverain qui veut dormir. Bon. Mais en réalité, Le noctambule et celui qui veut dormir sont à la recherche au moins d'une chose commune, c'est que la nuit ne ressemble pas au jour, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir une rupture, qu'il puisse se passer quelque chose d'autre. Et je pense que de ce point de vue-là, l'adversaire n'est pas forcément, ne sont pas l'adversaire l'un d'autre, il faut trouver des médiations, moi c'est pas ma spécialité, c'est pas à moi de le faire, à dire comment, mais pour qu'évidemment ils puissent vivre ensemble, mais leur adversaire commun, c'est l'ensemble justement de ces lumières blanches, de ces impératifs économiques qui font que la nuit va ressembler de plus en plus au jour, c'est-à-dire devenir un espace de production.
Alors, les lumières de nuit, c'est les lampadaires, mais c'est aussi les vitrines, les vitrines des magasins. Alors, ce que nous avons appris en préparant cette émission, c'est que depuis 2012, une loi interdit les éclairages nocturnes des vitrines. Nous sommes en 2019 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas encore gagné.
Depuis le 1er juillet, les commerces sont censés couper toutes les lumières entre 1h et 6h du matin, mais la mesure est très peu appliquée.
On est encore dans un moment où il faut informer l'ensemble des commerces qu'il faut éteindre ces enseignes lumineuses. Et puis après, malheureusement, si ça n'est pas respecté, ce sont les services de l'État qui devront verbaliser.
La loi qui s'applique aujourd'hui date pourtant de 2012. Petits commerces et grands groupes ont eu un délai de 6 ans pour s'adapter. Tous encourent jusqu'à 7 500 € d'amende et c'est à la mairie de les contrôler. Mais à Grenoble, on préfère pour le moment la pédagogie à la répression.
La verbalisation, ça voudrait dire qu'on envoie la police municipale en soirée faire des relevés. On trouve que c'est plus logique que la police municipale, elle s'intéresse aux personnes, plutôt qu'aux enseignes lumineuses.
Alors, est-ce qu'il faut envoyer la police protéger la nuit ? Voilà une vraie question de philo. Hein.
Vous avez... En tout cas, ce serait une des rares fois où la police vient mettre un terme à la possibilité du commerce. Ça serait une belle action.
C'est ce que prévoit la loi. Hein, sauf qu'elle est votée depuis 7 ans et pas appliquée, nulle part.
On peut mentionner la police de l'environnement. Oui. Il y a des territoires, les parcs nationaux, où il y a des agents en charge de la police de l'environnement. Là, effectivement, en fait, il y a eu un flou à la base de ce texte, de l'arrêté bateau de 2012-2013, mis en application en 2013. Il y avait un flou sur l'autorité compétente dans la mise en application de la loi, et ce qui, dans beaucoup de communes, a généré une espèce de malaise de qui est en charge de contrôler la mise en application de la loi. Ceci étant, il ne faut pas se voiler la face, il y a aussi des luttes d'intérêt, d'un point de vue d'intérêt économique, hein, taper sur les commerçants qui, pour les centres-villes, sont aussi une base électorale, peuvent être une base électorale solide. Il y a vraiment des intérêts à détricoter au-delà de la seule problématique de est-ce qu'ils appliquent la loi ou pas.
Vous disiez au début de l'émission que la pollution lumineuse avait subi une hausse exponentielle dans les années 50 ou 60 en raison de la hausse des besoins. Notamment du fait de l'accroissement du parc automobile. Il vous paraît aujourd'hui que les besoins sont moins élevés dans les grandes villes des pays développés. Enfin, je veux dire, les besoins ont régressé.
C'est pas qu'ils sont moins élevés, c'est que ça pose cette question des besoins, de quoi avons-nous vraiment besoin. Et je renverrai à l'ouvrage de notre collègue Razmik Cheyan, qui parle d'ailleurs de cette problématique de la pollution lumineuse dans son prologue. C'est qu'on a peut-être revu la priorité dans les besoins. Et on sent bien que l'automobile aujourd'hui dans la ville toute automobile, la ville fonctionnaliste telle que conçue dans les années 30 par à l'époque de Le Corbusier, commence à être un petit peu mise à mal. On veut une ville qui soit moins automobile, on veut une ville qui aussi laisse place à l'incertitude, laisse place à des opportunités, et c'est là aussi que la nuit urbaine est à sauver. La nuit urbaine, c'est un espace d'opportunité. On ne sait pas trop ce qui va se passer quand on se jette dans la nuit, quand on se jette en tant que noctambule dans la nuit urbaine, c'est l'espace des possibles.
Mais la voiture est plus consommatrice de lumière que ce qu'on appelle aujourd'hui les mobilités douces.
Il y a clairement un lien entre, au niveau de la tâche visuelle des conducteurs ou de la personne qui se déplace, entre la vitesse des déplacements et le besoin de lumière artificielle. Sauf sur les autoroutes où on rompt ce lien parce qu'on circule tous dans le même sens. Donc on n'a pas besoin de cet accompagnement par de l'éclairage artificiel, les phares des véhicules suffisent.
Alors, puisque effectivement l'arrêté bateau de 2012 n'est pas appliqué, puisqu'on ne sait pas qui doit l'appliquer, en fait, il y a des citoyens qui s'en sont chargés eux-mêmes dans un certain nombre de villes, et ça a donné aussi matière à quelques reportages.
À Grenoble, une association s'est lancée dans la chasse à la pollution lumineuse. Une heure passée, rue après rue, ces militants traquent les enseignes encore éclairées.
Voilà, c'est dans la boîte.
En quelques jours, ils en ont repéré une centaine.
Ça fait carrément un éclairage bleu sur le trottoir.
À chaque commerçant, ils enverront un rappel de la loi et des enjeux.
Donc là, on est devant Tiffany & Co, qui a été racheté par Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Et on continue notre opération Light Off, donc opération appelée On veut voir les étoiles, Manu. Et quand ça donne ça. Wow.
La mobilisation nancéenne qui, à l'occasion des assises nationales du mouvement Youth for Climate France, a décidé donc de venir éteindre ces enseignes.
En plus d'être inutile, c'est du gaspillage et c'est illégal. On est à peine 1h du matin, donc ça devrait être éteint.
Pour éteindre ces enseignes lumineuses, c'est très simple. Il y a un interrupteur extérieur, une espèce de petit levier qu'on peut baisser.
Moi, je ne savais pas, par exemple, qu'il y avait toujours des interrupteurs extérieurs qui permettaient de...
À côté des néons.
À côté des néons, c'est
oui,
ça.
Oui, parce que le néon est à l'extérieur et donc il n'est pas toujours sous environnement sécure d'un point de vue. S'il y a une fuite de gaz, en fait, il faut que les pompiers puissent couper en permanence. D'où l'émergence du clan du néon. Du clan du néon. En 97, en France, on a vu cette mouvance émerger.
C'est quoi le clan du néon ?
Le clan du néon, c'était un petit groupement qui a émergé à Paris et puis qui a disséminé dans les principales villes de France et qui revendiquait ce droit à l'extinction des néons. Alors, c'est intéressant parce qu'il y avait la question de la pollution lumineuse, il y avait la question des économies d'énergie et puis il y avait la question tout simplement de la publicité dans l'espace public.
Il faut ajouter la question de la beauté aussi, parce que le problème, c'est que cette lumière, au fond, c'est un auteur, Jonathan Créry, l'a appelé la lumière blanche, et même quand elle est bleue, elle est blanche. Si vous laissez, c'est une lumière des néons qui transperce les choses, qui ne les réfracte pas. C'est une lumière qui, au fond, uniformise tout et qui, d'une certaine manière, on les dit, c'est aussi une réaction esthétique un petit peu à ce que peut être la beauté de la nuit, ce que font ces jeunes gens. Même à la frontière de la légalité, le fait de vouloir éteindre, c'est paradoxalement ici pour le fait de pouvoir un petit peu ne plus être en quelque sorte prisonnier du halo de cette lumière, qui en fait est une lumière totalement articulée, je dirais, à deux choses, la lumière des néons, la surveillance et la consommation. On voit très bien qu'elle est présente dans les lieux, je dirais, de détention souvent, et dans les lieux qui ne sont pas toujours fondamentalement distincts d'hyperconsommation, comme les centres commerciaux ouverts d'ailleurs 24 heures sur 24.
Qui ne sont pas toujours fondamentalement distincts.
C'est-à-dire, ce sont des lieux où nous sommes, en quelque sorte, notre regard, nos corps, pour ce qui est vraiment de la détention, mais nos regards sont captifs d'une certaine lumière. Je rappelle quand même, pour les éléments les plus dramatiques, que cette lumière blanche, elle a été utilisée, elle l'est probablement toujours, aujourd'hui, comme un instrument de torture à Guantanamo. C'est-à-dire qu'on fixe des lumières de ce type extrêmement invasives sur le visage des prisonniers pour les empêcher de dormir, on sait bien que psychologiquement, c'est une manière, l'une des manières les plus violentes de déphaser quelqu'un que de ne plus lui permettre de savoir s'il fait jour, s'il fait nuit, l'empêcher aussi de dormir. Et donc, je crois qu'il faut aller jusqu'à dire, évidemment, que ces lumières ne sont pas en tant que telles des instruments de torture, mais elles sont en tout cas des éléments d'enlaidissement de l'espace qui peuvent provoquer des réactions, je crois, légitimement de désir maintenant de les éteindre.
Samuel Chéa.
J'ai mentionné le clan du néon, j'ai dû dire 97, mais c'est 2007, il me semble. Mais on voit aussi dans le reportage les associations environnementales, et j'ai vu passer Hélène Foglard, une collègue de la FRAPNA. Et puis on sait aujourd'hui que la FRAPNA, donc la Fédération pour la protection de la nature en Isère, mais qui est devenue FNE, et on sait aujourd'hui que, par exemple, des associations comme France Nature Environnement doivent pallier au manque d'application de la loi par l'État et font faire eux-mêmes appliquer ces lois sur les enjeux environnementaux. Donc là, il y a un vrai problème. Effectivement, on est dans une espèce de surenchère législative permanente, sauf que derrière, il n'y a pas les moyens de l'application, il n'y a pas on ne sait pas qui doit faire appliquer la loi, et c'est des associations ou des individus qui doivent pallier à cela. C'est problématique, il me semble.
Il n'y a pas eu encore de procès ?
Il n'y a pas eu de procès, non.
On a tout dit sur la nuit ?
Encore des choses à dire. Après, il faut pas seulement en parler, il faut parfois la vivre.
Alors, vivons donc la nuit. Et quittons-nous aux accents d'alors ce qui est en ce moment dans toutes les villes de France et sans doute d'un grand nombre de pays du monde, l'hymne à la nuit marchande. Vous voyez ce qui... Non, vous... Alors...
C'est un chant de Noël.
Voilà, on va l'écouter. Et merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.